gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Du gong. Eh bien bonsoir amis auditeurs, amis auditrices, il est 22h et c'est bien l'heure de la causerie comme presque tous les dimanches. Et ce soir à la technique nous retrouvons Clara.
Ouais,
ouais, ouais, ouais, ouais, elle est de retour.
Pour une semaine.
Et après je repars.
Et nous avons aussi Fab.
Bonsoir.
Et bonsoir.
Et bonsoir Jean-Yves qui bonsoir. Fait l'ouverture.
Et bien très bien. Et bien oui, vous l'aurez compris, dernière petite causerie avant quelques petites semaines de vacances. Mais on perd pas le nord hein, quand même. On est quand même là. Et ce soir on va causer. C'est Fab qui va prendre le crachoir pour ouvrir tout ça.
Généralement, quand j'entends ce générique, j'ai les poils qui se dressent. Bon, du coup, oui, je vais prendre le crachoir pour commencer à vous donner des envies de peut-être regarder des séries pendant ces vacances. Si vous avez du temps, voilà, ou même si vous n'avez pas de temps, vous pouvez prendre un peu de temps, voulez-le à votre patron, par exemple, ça peut être sympa. Voilà. Et là, j'avais envie de vous parler d'une série dont on a déjà causé, si vous en souvenez, et c'était il y a 7 ans tout juste.
Wow.
Oui, 7 ans. Dans l'émission du 23 juillet 2017, la 213 donc, où Stan vous avait parlé du Doctor Who et de la série Doctor Who. Il avait expliqué pourquoi cette série est un bijou depuis sa création il y a maintenant 63 ans. Et pourquoi nous devions nous y intéresser. Et cette année, quelque chose s'est passé. La série a été rebootée. Alors, c'est pas vraiment un reboot. Je vais vous expliquer. En fait, on parle d'une ère. Et en fait, là, c'est une nouvelle ère du docteur. Parce que tous les 3-4 docteurs, à peu près, parce que vous savez que le docteur, c'est pas toujours le même acteur, parce que le docteur vous se régénère. Des fois, c'est même une actrice. Ça avait déjà fait beaucoup de scandale à l'époque.
J'allais dire.
Voilà.
Oh, grand Dieu!
Voilà. Et donc, et ben, là, en fait, on a un nouveau docteur qui arrive. Et comme, en fait, il y avait besoin de ce qu'on appelle une rupture scénaristique, c'est-à-dire qu'on reparte sur de nouvelles aventures, eh ben on parle d'une nouvelle ère du docteur. Donc le 15e docteur dont je vais vous parler ce soir, c'est un peu la saison 1 de la 3e série Doctor Who. Voilà. Moi, cherchez pas, vous allez comprendre. Et donc c'est un nouveau docteur qui est incarné par Nsuti Gatwa. J'ai appris à dire son prénom depuis la dernière fois. Voilà. Et donc j'en ai parlé d'ailleurs dans l'émission hein, de l'émoi que ça avait fait, que les réacs avaient gueulé parce que c'est l'arrivée d'un acteur noir homosexuel extraverti pour jouer le docteur. Et ça, oulala, oulala. Mais on va laisser les réacs à ce qu'ils sont, hein, des empêcheurs de vivre sereinement. Et on va donc parler plutôt de cette saison 1 de la nouvelle ère de Doctor Who. Je vais vous en parler en tout cas pour vous donner l'envie, j'espère, de vous plonger dans cet univers. Alors tout d'abord, je vais souligner que c'est le génialissime Russell T. Davis qui est aux commandes et qui est de retour. Et c'est lui qui avait déjà dépoussiéré et fait revivre la série en 2005. C'est-à-dire ce qu'on a appelé la deuxième ère. C'est lui qui avait déjà initié ça. C'est-à-dire que le Doctor Who de 1963 1933 à 1989, avait vécu ce qu'on appelle la première ère du Docteur. Et lui, en 2005, il a eu l'idée de relancer le Docteur Who. Et il l'a fait. Et là, maintenant, il dit, 19 ans plus tard, il est peut-être temps de refaire une rupture, de changer un peu aussi de rythme, je sais pas, voilà, et de moderniser un peu les choses. Alors là, il reprend les rênes, au sens, on va dire qu'on sent tout de suite sa patine, hein, parce qu'il y a des histoires sympas, et il y a de l'humour, surtout dans les histoires, et de la profondeur. Et c'est parfois très très sombre, et d'autres fois très léger. Et parfois, c'est même très sombre et très léger dans le même épisode. Et c'est un peu ça, Doctor Who, on passe un peu par plein d'émotions. Alors clairement, hein, cette saison, elle est axée sur la famille. Ce que c'est que d'être une famille, de la notion de famille choisie, de cœur, de lien, mais aussi ce qui peut nous unir aux autres, au-delà du lien du sang, qui ne sont qu'un hasard sans importance réelle. Voilà. C'était un peu là, autour de ça que tourne cette première saison de la nouvelle ère du Docteur. Et autour de tout cela, en 9 épisodes, c'est des thèmes comme le racisme, le sexisme, la haine des LGBTQIA+, le rejet de l'inconnu, le fascisme, la peur, la guerre, qui seront abordés de façon directe ou indirecte, mais toujours avec une très forte pertinence. En clair, on s'ennuie pas un seul instant, et surtout, on cogite aussi un peu devant Doctor Who. C'est pas qu'une série de SF banale. Voilà. Alors l'interprétation de Nsuti Gatwa, elle est juste géniale. Elle donne à ce 15e docteur une façon d'être étonnante, ce qu'on n'avait jamais vu, et qui résonne finalement avec l'époque. Parce que chaque docteur est un peu le reflet de son époque. Alors, je rappelle ce qu'avait dit Stan à l'époque. Oui, Doctor Who est une série wokiste, comme dirait l'extrême droite. Hein, parce que voilà. Non, en fait, alors je vous rappelle que à la causerie où le wokisme n'existe pas, hein, c'est une création de l'extrême droite. Non, en fait, c'est une série progressiste. Elle l'a toujours été depuis le début. Donc le Doctor Who, il a toujours des positionnements extrêmement en avance, même parfois sur notre époque. Okay. Par exemple, je donne cet exemple. En 1966, le Doctor Who anglais défendait le droit à l'IVG pour toutes les femmes dans une Angleterre qui se demandait s'il fallait l'accorder ou pas. Vous voyez, donc il y a des prises de position dans la série systématiquement un peu en avance sur son époque.
Ouais. Et on est d'accord, l'acteur, c'est lui qui jouait dans Sex Education.
Ouais, tout à fait. C'est lui qui était. Ouais. Et c'est un super acteur, vraiment.
Oui,
Alors là, il a l'avantage de plus jouer un ado. Hein, il joue
oui,
un
oui,
adulte,
non, mais bien sûr. Même... Oui, mais c'était pour situer.
Voilà, mais ce qui est quand même aussi plutôt agréable de le voir correspondre à son âge. Mmh. Je rappelle qu'une Nsuti Gatwa, il a quasiment 30 balais. Hein, donc voilà. Donc c'est un peu le moment où il peut jouer un mec de 30 ans. Donc c'est un docteur qui est aussi amoureux des autres. Curieux, de tout, empathique et sensible, qui nous est présenté ici. Et ça, c'est un peu nouveau, parce que le Docteur Who, comme il a plusieurs milliers d'années, en fait, il avait tendance à être un peu cynique. Et en fait, là, il découvre que d'être moins cynique, c'est sympa aussi. Vous voyez ? Donc voilà, donc du coup, ça amène une nouvelle façon d'être le Docteur.
Est-ce que c'est peut-être parce qu'il écoute la causerie, non ?
Peut-être. Peut-être c'est lié à ça. On ne sait pas.
Pardon, c'est la dernière.
Alors c'est parfois assez déstabilisant hein, quand on compare à ce qu'était le docteur avant lui, quand on est fan, comme je peux l'être. C'est-à-dire qu'on a vu quasi toutes les saisons de tous les docteurs. Mais en même temps, c'est aussi la marque d'une série qui sait se réinventer, et c'est tant mieux. Parce que du coup, elle s'est aussi collée à d'autres thématiques, à son époque. Et puis après tout, le docteur, on sait qu'il change à chaque fois qu'il se régénère. Mmh. C'est bien, parce que comme ça, la prédécessrice du docteur actuel avait aussi amené un côté un peu fantasque au docteur auquel on n'était pas habitué. Ça fait du bien d'avoir d'autres personnalités.
Oui, en fait, ça permet à chaque fois aussi de réanimer de nouvelles cordes aux personnages.
Ouais, c'est ça.
En fait, quoi.
Moi, c'est ça, exactement. Et puis d'y mettre d'autres thématiques.
Oui,
ça,
oui,
c'est
oui,
ça
oui,
qui
oui.
est intéressant. Et d'ailleurs, pas de docteur sans compagnon de voyage. Parce que oui, le docteur y voyage et il a des compagnons et des compagnes de voyage. Alors, c'est une compagne de voyage qui va passer cette saison avec lui. Alors, elle s'appelle dans la série Ruby Sunday. Alors, d'ailleurs, une grande partie de l'arc narratif la concerne, vu qu'il y a quand même un épisode qui s'appelle Le mystère de Ruby Sunday. Donc voilà. Mais je ne vais pas aller plus loin, ni vous spoiler, ce serait quand même super dommage. Mais c'est l'actrice Millie Gibson, alors qui avait à peine 18 ans hein, quand elle a commencé le tournage. Il faut savoir qu'elle a été choisie en partie par Nsuti Gatwa, parce qu'ils ont passé des essais ensemble et il a dit, soufflait à la production, ça colle super bien ensemble et on ferait un super duo. Et c'est cool parce qu'effectivement, ça se voit à l'antenne. Et donc, elle offre ses traits et son jeu à ce personnage. Et elle lui donne d'ailleurs une dimension à ce personnage étrange entre la très bonne copine et la femme indépendante qui n'a peur de rien. Donc, c'est bien parce que c'est un peu une nouveauté dans Doctor Who. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui est avec le docteur, mais en même temps, qui a sa propre vision. C'est-à-dire qui n'est pas béate devant ou béat devant le docteur, parce que même les compagnons du docteur avaient tendance à trouver le docteur tout le temps génial. Là, des fois, elle lui rappelle un petit peu que voilà, Donc c'est plutôt bien. Et là aussi, on peut donc souligner que l'effort, bah, c'est de coller à l'époque, c'est-à-dire de sortir un petit peu du classicisme et de modifier un petit peu les choses. Et mais comme je disais, ça a toujours été le cas dans Doctor Who, et c'est bien de voir que dans cette nouvelle ère, on tente des choses nouvelles, et c'est plutôt cool, tout en gardant un truc du passé qui est aussi très sympa. Donc je vous invite à sauter dans le TARDIS. Hein. C'est le TARDIS, c'est le vaisseau qui voyage dans l'espace et dans le temps. C'est le vaisseau du Docteur. Hein. Et donc du coup, vous allez croiser les Beatles, un monde surpeuplé peuplé uniquement d'influenceurs et d'influenceuses, des bébés de l'espace, un autre monde qui est en guerre permanente contre une menace invisible. Vous aurez aussi la chance de croiser des dieux. Alors attention, parce que dans l'univers du Docteur Who, les dieux, ce sont en fait des êtres célestes immortels, ou presque, comme il l'est lui-même. Vous voyez un petit peu le côté humoristique à ce qu'ils les appellent des dieux. Voilà. Mais aussi de faire un voyage dans l'époque victorienne. Voilà. Et tout ça en 9 épisodes, donc c'est plutôt cool. Oui, parce que vraiment, vous allez pouvoir vivre tout ça. Et au fait, TARDIS, ça veut dire le Time and Relative Dimension in Space. Voilà, autrement dit, temps à relativité dimensionnelle interspatiale. En gros, ça a la forme d'une cabine téléphonique d'urgence des années 60 anglaise, oui, voilà, bleue, mais c'est beaucoup plus grand à l'intérieur.
Ok.
Quoi, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire ? Oui, je sais, vous ne comprenez pas. Eh bien, une seule chose à faire, vous plongez dans cette saison de Doctor Who, et je peux même vous conseiller de regarder les 3 épisodes spéciaux de 2023 avant de plonger dans la saison, et vous vous laissez conquérir par l'une des meilleures séries de science-fiction qui existent. Et croyez-moi, vous allez devenir accro. Donc vous pourrez la trouver sur le net ou sur Disney+, hein. Ça dépend si vous avez les moyens ou pas, et la regarder avec vos enfants, sans souci, parce que Doctor Who, c'est une vraie série intergénérationnelle, et ça fait du bien. Voilà.
Eh bien, très bien. Eh bien, on passe à la ZIC.
Ben oui.
Allons-y.
vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 ou sur radiocalu.org. Et Jean-Yves débranche mon casque, on ne sait pas pourquoi. C'est pour ça que j'ai eu un moment d'arrêt. Excusez-moi.
C'est ce que je me suis dit quand tu t'es arrêté.
Je ne sais pas, j'ai cru que tout était découpé. Non. Bon, bref, donc on est dans la causerie. Et c'était le groupe, le fabuleux groupe, l'interdimensionnel groupe Fleuve. Avec un S. Et c'était Loudia. Et donc, ce sont des Bretons qui font de la musique mélangée. C'est et c'est vachement bien. Et allez voir le clip de Loudia. C'est juste magnifique. C'est des gens qui dansent pendant un concert de Fleuve. C'est beau, les gens qui dansent.
Bah oui, parce que ça ressemble à des fest-noz.
Bah oui, c'est ça.
Ces soirées, on danse.
Et donc, du coup, fête de nuit en France.
Bah oui, fête de nuit.
Et donc, du coup.
Oui, pardon, faut parler français.
Oui, parce qu'il paraît que maintenant, on n'a plus le droit de parler breton, de dire fest-yaz, fest-noz. Alors, donc, du coup, Jean-Yves, c'est toi qui va nous parler d'un livre que tu as trouvé extrêmement important et que tu te dis tiens si les gens l'emmenaient en vacances pour le bouquiner.
Ça. Ben ouais, vu que c'est la dernière avec avant une petite pause estivale pour nous en tout cas, ben j'avais envie de vous laisser sur une proposition de lecture effectivement et ce soir je vous cause de La Parole aux Négresses de Awa Thiam qui est ressorti en mai 2024 aux éditions Divergence. Alors ressorti parce que ce livre il date de 1978 et était introuvable depuis sa dernière réédition en 1982. C'était il n'y a pas si longtemps.
C'est l'année où tu es né.
Oui, donc c'était pas il y a très longtemps. Bien que depuis, en fait, il soit devenu une référence dans certaines universités jusqu'aux États-Unis. La réédition en France, elle est accompagnée de la préface de Mam Fatou Niang, qui est une universitaire franco-sénégalaise. Et le livre est aussi réédité au Sénégal. Par la maison d'édition Saaraba et elle est préfacée là-bas par Ndiaye Fatou Kane qui en fait est une écrivaine et militante féministe. Alors avant de vous parler un peu plus de mon livre, du livre, je vais vous parler un petit peu de l'autrice. Awa Thiam, donc, elle est née en 1950 au Sénégal, elle est anthropologue, femme politique et écrivaine féministe, on peut le dire. Elle a été étudiante à Paris dans les années 70, elle a cofondé ici la Coordination des Femmes Noires en 1976 et très engagée aussi dans la lutte contre les mutilations génitales. Elle cofonde également la Commission pour l'abolition des mutilations sexuelles en 1982. Et c'est, pour celles et ceux qui nous suivent depuis un petit moment, on avait reçu GAMS, G-A-M-S, qui lutte aussi contre les mutilations faites aux femmes, mutilations sexuelles génitales faites aux femmes. Mais en fait, il y a un petit lien, en fait. Il y a eu une scission à un moment donné et deux collectifs sont nés. Bref, à son retour au Sénégal, elle devient en fait professeure associée et chercheure en anthropologie et elle s'implique dans le domaine de la santé publique, plus particulièrement dans la cause des femmes. Et encore aujourd'hui, je crois qu'elle tient un centre, un centre social, mais en tout cas un centre pour les femmes où il y a des cours des cours et de la santé etc etc etc. Donc j'en viens quand même au livre parce qu'on est là pour ça. Alors il a été très important effectivement à sa sortie c'est une pierre, vraiment c'est un peu dit partout, il a été une pierre fondatrice du féminisme noir francophone pour la densité la richesse de son ouvrage vraiment clairement. La première richesse en fait elle se situe dans le fait qu'elle a été une des premières, on pourrait dire la première, à recueillir les mots, M-O-T-S, de femmes noires. Alors plus précisément, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Mali et de la Guinée, en ce qui concerne les pays francophones, et aussi de femmes nigérianes et ghanéennes, pardon, pour les pays anglophones. Et dans tout ça, donc, c'est des témoignages de différentes femmes. Il y a aussi une interview collective et mixte, avec 7 hommes, pardon, et 6 femmes. Très intéressant aussi. Et ce qui en sort, en fait, déjà, c'est la diversité. Il n'y a pas une femme africaine, comme il n'y en a pas une française, comme il n'y en a pas une européenne, ça n'existe pas. Donc déjà, il y a des femmes africaines avec leur trajectoire de vie, les combats qu'elles ont eu à mener, qu'elles mènent ou qu'elles ont décidé de ne pas mener, et cela pour diverses raisons. Alors vous me direz, ça coule de source, ouais, peut-être, mais je trouve que c'est toujours utile de le rappeler, tout ça. Ça peut être des évidences pour plein de monde, mais c'est bien aussi de se rappeler que non, il n'y a pas une, il y a des. Bref, alors la deuxième partie du livre fait l'état des lieux des mots, M-A-U-X, des femmes noires. Alors elle parlera des mutilations génitales, d'analphabétisme, de grossesse précoce, de polygamie, de mariage forcé, de blanchiment de peau, de l'influence de la religion, des traditions. C'est très riche. Elle en explique là où les origines historiques, politiques, elle en expose aussi la réalité dans la vie des femmes, des groupes ethniques, parfois justement en transcrivant des témoignages. On est vraiment sur du témoignage brut, c'est pas du tout, je peux comment dire, elle a interviewé des gens et c'est vraiment le retour direct, quoi. Et elle interroge aussi les formes de lutte qui existent ou comment en mettre en place, comment les mettre en place. Elle en appelle au soulèvement des femmes pour ne plus taire leurs mots et à s'y attaquer, clairement. Donc, on passe ensuite à la troisième partie, avec un euphémisme, féminisme et révolution, qui lui aborde le véritable pouvoir émancipateur, libérateur du féminisme, des féminismes, avec des exemples sur le continent européen, américain, etc. Et aussi les rapports qui peuvent être entretenus entre les femmes, avec les luttes des femmes en Afrique et les luttes des femmes ailleurs, en fait. En fait, elle ne cherche pas du tout à diviser, à séparer ou je ne sais quoi, c'est juste c'est des contextes politiques, etc., différents, mais pour autant ça ne s'oppose pas forcément, mais ça se complémentarise et ça s'additionne, en fait, quoi. Enfin, vraiment, elle parle clairement de sororité mondiale, quoi. Donc cette troisième partie, ce dont je vous parlais, c'est aussi l'état des lieux. Une fois qu'elle l'a fait, en fait, le constat d'Awa Thiam est le suivant. Les luttes des femmes africaines ne sont pas les mêmes que celles de leurs consœurs aux États-Unis ou en Europe. Et je la cite, « Là où l'européenne se plaint d'être doublement opprimée, la négresse l'est triplement. Oppression de par son sexe, de par sa classe, de par sa race. Sexisme, racisme, existence des classes sociales. Capitalisme, colonialisme ou néocolonialisme. » Et en fait, alors, quand on dit ça, les plus militants, militantes vont se dire « Ah mais ouais, mais c'est l'intersectionnalité !» justement, Awa Thiam, en fait, c'est la première, en tout cas elle l'a fait avant Bell Hook, et avant aussi celle qui était avocate, j'ai plus son nom, mais donc vraiment elle a été une des premières, la première à justement dire, en fait quand on est une femme noire, on n'a pas les mêmes oppressions et on vit une oppression en tout cas supplémentaire, et encore une fois c'est pas dans le but de hiérarchiser, c'est juste on ne peut pas mener une lutte à bien si on analyse mal au départ, et donc on n'a pas les armes adapté pour certaines luttes, en fait. Et c'est vraiment ça, quoi. Donc, elle conclut aussi par la nécessité pour les femmes africaines de porter leurs propres revendications par l'écriture et la parole, et c'est vraiment son but, pour qu'elles ne leur soient plus confisquées. Ni confisquées par un féminisme, on peut dire, blanc, européen ou américain, mais aussi par un homme noir, africain, etc. Parce que, et là aussi, c'est hyper intéressant parce qu'elle vient souvent titiller le fait que, pas souvent, mais en tout cas, elle en parle de il faut que ce soit la libération des personnes noires. Et ensuite, elle dit non, en fait, pourquoi on doit le faire dans cet ordre-là? En fait, ça veut déjà dire que les femmes noires, en fait, elles sont variables d'ajustement. En fait, non, du tout.
Il faudrait qu'elles attendent après, quoi.
C'est exactement ça. Mais ça, au final, c'est aussi un truc qu'on a pu entendre.
C'est un peu la même position, un peu, je dirais, que, pardon, messieurs, dames, mais du marxisme historique.
Oui, c'est exactement
disait,
ça.
L'égalité viendra après la révolution.
C'est exactement ça.
En fait, on est toujours un petit peu dans le côté, pas maintenant, quoi.
C'est ça.
Alors que finalement, il y a des choses qu'on peut changer maintenant et autant le faire.
C'est exactement ça. Et elle plaide, comme je vous le disais, pour une sororité internationale et révolutionnaire. Ouais, c'était en 1900, qu'est-ce que je vous ai dit ?
78.
Ça fait un bien fou. Dans la dernière partie du livre aussi, elle esquisse en fait des pistes d'action, alors qui passent évidemment par une prise de parole indépendante et une préparation à lutter pour leur libération. De Awa Thiam de nous rappeler qu'elle parle là d'une lutte de longue haleine, et je la cite, qu'il s'agit non d'une course de vitesse mais d'une course de fond, que les femmes s'arment en conséquence pour la mener à bien, et que, je continue de la citer, la solution du problème des femmes sera collective et internationale, le changement de leur statut sera à ce prix ou ne sera pas. Donc voilà. Alors si ce livre, hein, il a été hyper important. Ah oui, pardon, mais ce que je voulais aussi rajouter, c'est... Oh, je me suis perdu. Oui, c'est, je parlais de libération ou d'émancipation. Et en fait, ça aussi, c'est un terme sur lequel elle revient. En fait, elle déteste le mot émancipation. Parce que pour elle, en fait, ça continue d'infantiliser les femmes. Mmh. Et vraiment, moi, ça m'a... Je me dis, oh tiens, moi qui utilise beaucoup ce mot émancipé, effectivement, il y a un côté tutelle.
On s'émancipe d'une tutelle, toujours.
Oui, c'est ça. Alors qu'en fait, elle dit non, en fait, c'est se libérer qu'il faut, c'est pas s'émanciper de je ne sais quoi. Donc vraiment.
C'est ce que les Américains avaient traduit par empowerer, qui est devenu empouvoirer en français. Sauf que en français, ça sonne pas pareil. Et c'est vrai que c'est la notion, en fait, de récupérer son pouvoir. Pouvoir au sens d'être soi, quoi.
Oui, c'est ça.
En anglais, le mot power a double sens qu'il n'a pas forcément en français. Et c'est vrai que oui, c'est le. Oui, voilà, c'est
porter l'idée, ta voix.
Ouais, c'est l'idée d'être. En fait, tu es déjà. T'es pas sous la tutelle d'eux, t'as pas à t'émanciper d'eux, tu es déjà en fait.
C'est ça. Alors, effectivement, hein, je reprends donc si ce livre était important à sa sortie, alors bien qu'il a aussi évidemment été dénoncé, hein, il reste.
Alors, je suis étonné. Alors là, franchement. Donc, tu veux me dire qu'une autrice sénégalaise qui sort un livre féministe en 78 a été dénoncée.
Donc, c'est fou.
Mais ça, je suis sûr que c'est encore un coup des wokistes.
Ouais. Donc, ça doit être ça, déjà.
Mais non, mais tu vois, on voit que les, en fait, on voit que les débats d'aujourd'hui étaient déjà là, les depuis des années. Et qu'en réalité, il y avait, maintenant, ils prennent le mot wokiste parce qu'ils ont, voilà. Mais à l'époque, elle devait être traitée, je sais pas, de féminazie ou je ne sais quoi, ou d'avorteuse, comme on disait pour Gisèle Halimi ou des choses comme ça. Enfin, c'est, en fait, il y a toujours, dès qu'il y a des canaux d'émancipation, dès qu'il y a des gens qui écrivent sur le, et j'ai repris le mot émancipation par erreur, en plus, en le disant, je me suis dit, c'est pas ça que je voulais dire, parce que c'est au moment d'en parler. Mmh. Donc, dès qu'il y a des canaux, en fait, de dépassement d'une société, d'explosion d'une société, ou qui viennent vers quelque chose de progressiste, en fait, systématiquement, on a des gens qui viennent nous dire, oui, mais là, vous essayez de nous imposer les choses, oui, mais
c'est
là, machin,
ça.
Oui, mais ceci, alors qu'en fait, on parle juste du droit d'être, en fait.
Et en fait, c'est ce qu'elle elle en parle aussi brièvement, mais elle le dit aussi justement sur le fait qu'on va lui dire, oui, mais ça, c'est un truc d'européenne, machin. Et en fait, elle dit, ben non, en fait, on n'est pas là, on n'est pas dans du mimétisme, parce qu'on a nos propres luttes, etc., à porter. Mais c'est là aussi, en fait, c'est-à-dire qu'il y a toujours une prise en tenaille entre, finalement, toujours des gens qui veulent te réassigner à quelque chose.
Ouais.
Et partout.
Mais j'ai pas leur nom, je suis désolé, mais j'ai fait en ce moment, il y a des influenceuses, d'ailleurs sénégalaises, qui font des petites vidéos sur TikTok où elles vont interroger des hommes sur les marchés et elle leur pose des questions qui paraissent extrêmement choquantes, mais c'est par exemple combien vaut la dot d'une femme excisée par rapport à une femme qui ne l'est pas. Elles font exprès en plus de donner l'impression qu'elle leur donne raison, c'est un peu une volonté, c'est ce qu'on a, voilà, c'est pour dénoncer. Et en fait, quand après elles en ont fait un montage pour expliquer que la société avait besoin d'évoluer, qu'il y avait un vrai problème, machin et tout, en fait elles ont été montrées du doigt en disant elles sont blanches. Et c'est dingue, alors qu'en fait, elles ont juste en fait pris le pouls de la société sénégalaise d'aujourd'hui. Et elles répondent, elles disent, mais en fait, on est vos filles, vos sœurs, vos mères, et en réalité, on n'est pas plus blanches que vous. Et elles disent, non, en fait, nous, on veut juste que la société soit plus juste. Et en fait, c'est ça, c'est qu'à chaque fois, on va les... Alors, surtout en 78, en contexte postcolonial, on va dire, voilà, c'est la voix du colon. Par contre, ça emmerde personne que les lois homophobes du colon soient reprises aujourd'hui, du colonialisme, soient reprises aujourd'hui. Et voilà, donc, je veux dire, on voit que c'est à double, pareil, hein, c'est à double lecture, hein, systématiquement. Mais c'est intéressant de voir quoi, les gens qui sont là et qui essayent d'apporter un plus vers... vers plus de liberté, en fait, systématiquement, ils sont montrés du doigt comme étant le problème de la société, alors qu'ils ne font que dénoncer les problèmes de la société, en fait.
C'est ça, en fait. C'est exactement ça. Alors, important, donc, je disais, hein, aussi, il est important pour le militantisme actuel, hein, parce que vraiment, il vient enrichir quelque chose. Il est intéressant et important aussi pour la culture, pour les savoirs, pour observer les avancées ou les reculs, les blocages qu'il y a pu y avoir,
ou les stagnations.
Ou la stagnation, effectivement. Et il reste aussi important par les positions en fait de son autrice qui vraiment sont, enfin les positions sont radicales et vraiment contemporaines, quoi. Il y a rien de dépassé, vraiment pas. Alors parce que en fait, hein, si elle apporte toujours des nuances pour par l'explication, par l'exemple, l'autrice en fait elle se positionne clairement contre toutes les violences que j'ai pu citer précédemment, hein. Tous les maux que peuvent énoncer les femmes qui témoignent et ne donnent pas dans un relativisme culturel ou religieux ou je ne sais quoi. Bref, la quête, c'est la liberté totale des femmes, noires, y compris. Et ça fait vraiment un bien fou. En fait, j'ai trouvé des... Alors, c'est beaucoup... il y a beaucoup d'analyses, hein, effectivement. Quand elle va parler avec des gens, elle va revenir sur des points, elle va essayer de remonter dans l'historique, elle va donner des explications. Et c'est hyper intéressant. Enfin, vraiment, c'est très, très, très riche. Et, il est aussi important parce qu'il remet sur le devant de la scène une autrice et un ouvrage important, en fait, qui était finalement trop cantonné aux universitaires. Parce que ça, c'est intéressant, c'est dans la préface... dans la préface de Mam Fatou Niang, qui elle est universitaire, elle a fait des études aux États-Unis. C'est aux États-Unis qu'elle a pris elle connaissance de la parole négresse de Awatiam. Et c'est ce qu'elle dit dans sa préface, c'est qu'elle dit, c'est très incroyable, c'est que elle, en arrivant aux États-Unis, elle a appris sur les féministes noires, francophones, etc. Parce que vraiment, elle donne une liste incroyable d'autrices. Et à l'inverse, c'est elle qui apprenait des choses sur l'histoire des États-Unis à des étudiantes américaines. Enfin, il y a vraiment chaque pays quand même cloisonne beaucoup les choses pour que justement il n'y ait pas de souffle révolutionnaire ou libérateur qui se ravive en fait quoi. C'est vraiment c'est hyper intéressant sur ce point-là aussi. Et donc justement, ce qui est intéressant, c'est que maintenant on n'a plus besoin de passer par l'université et pas plus américaine qu'ailleurs pour avoir accès à ce bouquin. Donc vraiment. Je vous le conseille vivement, c'est La parole aux négresses d'Awatiam aux éditions Divergence. Et bah, n'hésitez pas, là, comme dit, on part quelques semaines. N'hésitez pas, si vous le lisez pendant ce temps ou si vous l'avez déjà lu, à laisser des commentaires, laisser votre avis. Parce que, c'est aussi...
Et à le faire acheter à vos médiathèques, bibliothèques,
oui, aussi,
s'ils l'ont
clairement,
etc. Quoi.
Clairement, ouais, très, 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 très intéressant. Et ben, je crois qu'on a tout dit.
Bah, moi, en tout cas, j'avais rien d'autre à dire.
Et ben, moi, je propose alors qu'on passe à la ZIC.
Jigen yak sama digem tay la gëna doon jigen waral ñu for ndeer bak la ya bax ki yeyo bax xol ko ci yaayu da bax ci u jur mu meñ lepp far bax ciew dana bax sar lañ la bakal yaay aljana waral ngay leer di len nitel masta nitel waro des dana waxul wone sa place aji les waxul yaangi wone li sawra bakke mam mariama jigen juman gor yag wone jamba yag sam sangor dekk ci gore am fulak fayda togala class jigen jigen yag degu wango jigen 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 ñukkal warna la tay sa tek ak sa tay waral la fetu tay jigen dagam do mag fay waral mu deku choono tok baña fay tawna safar ak marwa tabax njabot bi dekk ci tay sa barak xalam dañ la bakati tunu nga petit ta petit gam gam ni petit ci tag yag yag naw chom nga lu yom jëf ju ñaaw dang ko romb daw nga takku ku ron xewal bi wala nga tundu nga lu metti waral mbekté wal nga naan dekk nga ci saket tay ci tax ngay fanan jigen jigen ya ka degu waw ko jigen jigen warna bepp jigen chanta ngeureum ñeena leen lu metti 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 jigen geumal ne meun nga ci genn
Et vous êtes toujours à l'écoute de La Causerie. On vient de s'écouter le titre de Sister Elbi, rappeuse sénégalaise, avec le titre Jigen. Ok, c'est en hommage.
C'est, ouais, c'est quoi?
Oui.
Parce qu'on ne parle pas tous la langue.
Alors, je ne parle pas non plus le Wolof, en espérant que c'était bien du Wolof. Je pense que c'était du Wolof. Et en fait, c'est un peu un hommage à la force des femmes, ou en tout cas à toutes les femmes de par le monde. Parce qu'elles en chient toutes et que voilà. Et ben, c'est Fab qui prend la suite avec un autre sujet autour d'une série.
Ce que tu viens d'entendre, cet orchestre qui se met à l'unisson avant de partir dans le frisson, c'est le générique de la série Entretien avec un vampire. Voilà. Alors, vous vous souvenez sans doute du film avec Tom Cruise et Brad Pitt autour de l'œuvre d'Anne Rice. Et si vous avez un peu suivi, vous savez que l'autrice, elle n'était pas très, 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 très satisfaite du film, qu'elle trouvait très, 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 très édulcoré par rapport à ses romans. Et je peux vous dire, en fan des romans, que c'est largement vrai. Ben honnêtement, si vous avez adapté des romans à l'époque, pas sûr que le film se serait fait, je suis pas sûr que Tom Cruise y aurait joué, par exemple, vous voyez.
Et pas sûr qu'il aurait marché non plus, je crois qu'il avait marché dans l'époque.
Ben, il avait bien marché, oui, mais voilà. Mais alors, juste parce que Tom Cruise est quand même un réactionnaire, il aurait eu du mal à jouer. Et Brad Pitt doit être kermieux, je vous le dis sincèrement. Donc alors, depuis, elle et son fils, donc Anne Rice et son fils, cherchaient à faire une série pour réellement adapter non pas les romans en eux-mêmes, mais les idées qui les traversent. Voilà. Comprenez. Pour les idées, l'homo-érotisme, le cynisme, l'existentialisme et l'amour fou. Voilà. Okay. Et ils ont trouvé, peu de temps avant la mort d'Anne Rice, et ainsi est née la série Anne Rice, Interview with the Vampire. Ou Anne Rice, Entretien avec un vampire. Voilà. Et autant le dire, la série est mille fois plus fidèle au roman que le film. Alors pas forcément sur les lieux et les dates, ceci dit, mais ça c'est volontaire, parce que Anne Rice, elle a réécrit un peu le scénario, elle avait donné des pistes en disant j'aurais peut-être mis plutôt mon roman là que là, parce qu'elle a écrit le roman 76, et entre temps elle a eu d'autres idées, ce qui est bien, donc elle les a posées, et le scénariste de la série en a tenu compte, en grande partie, il le dit lui-même, pour adapter la série. Alors d'abord, il faut savoir que cette série, elle aborde frontalement l'homosexualité et l'homo-érotisme qui parcourt tout Entretien avec un vampire. Et la sexualité, le sexe parcourt, je le rappelle, toute l'œuvre d'Anne Rice. Vous prenez tous les livres d'Anne Rice, elle avait un vrai problème avec le sexe. Non, c'est pas vrai, elle avait pas un problème, mais elle aimait rappeler que nous étions aussi chair et désir. Voilà. Je vous rappelle qu'elle a écrit un livre qui parle des mésaventures de la Belle au bois dormant, qui est un livre érotique en quatre parties, extrêmement sensuel, et qui parle de la perversion, de la fessée, du plaisir, de la damnation dans les bras d'un homme ou d'une femme à qui on se laisse totalement aller. Voilà, c'était Anne Rice.
Okay.
Oui, donc je vous dis, c'est pas nouveau, mais en fait, c'était aussi présent dans les chroniques des vampires, dont est issu Entretien avec un vampire. Okay. Et la série va être aussi beaucoup plus réelle et réaliste dans les rapports entre Louis et le reste de la société. On est donc en Louisiane. Le personnage dans la série est noir, dans un état séparatiste. Bon, il a beau s'appeler Louis de Pointe-du-Lac, il n'en reste pas moins un négro, comme ils le disent, aux yeux des Blancs. Voilà. Il croise Lestat de Lioncourt un soir. Il le trouve beau, attirant, électrique, étonnant. Mais aussi très agaçant. Voilà. Et puis, le frère de Louis va mourir et Lestat commence à l'obséder. Il l'a dans la tête. Mais on découvrira que c'est pas un hasard. Il trouve en lui, en Lestat, l'homme qu'il aurait aimé être. Sûr de lui, arrogant, parfois, cultivé, distingué. Mais ce que Louis ne sait pas, c'est que Lestat est amoureux de lui et l'a choisi comme partenaire. Sauf que Louis va devoir devenir un vampire pour cela. Car Lestat a plusieurs dizaines d'années, malgré ses airs de trentenaire fringant. Et il a aussi quelques dents pointues. Voilà. La série explore aussi les tourments de Louis, qui n'accepte pas vraiment sa condition de vampire, qui réprouve l'idée de tuer pour survivre, qui, malgré sa transformation, a peur de bien des choses, et en premier lieu, de lui-même et de ses pouvoirs. Ce qui est un peu embêtant quand on devient un quasi-dieu, comme dirait Lestat, vu qu'on est immortel. Part au soleil. De l'amour entre les deux personnages naît finalement une profonde colère et haine, car Louis estime qu'il a été empêché d'être et qu'il n'avait jamais vraiment souhaité être un vampire. Wow. Et oui, c'est tout ce qui est dans le roman aussi et qui est aussi dans la série. Je ne spoil pas grand chose, hein, je survole. Il rejette la liberté qui lui est offerte, celle d'être ce qu'il veut finalement. Là où Lestat l'embrasse à pleine bouche et la vit pleinement. Et tout est relaté à un journaliste en haut d'une tour de Dubaï par un Louis plus triste que jamais. Voilà. Ça, c'est Entretien avec un vampire. Alors, il faut savoir, je fais une petite parenthèse, Anne Rice, en fait, elle s'est séparée de Louis après le premier roman, parce qu'elle le trouvait particulièrement chiant. Et elle le dit elle-même, elle dit, finalement, on lui offrait tout sur un plateau. Et après, tout le reste de la chronique des vampires est écrit du point de vue de Lestat. Okay. Voilà. Mais c'est un roman très intéressant, et c'est une série extrêmement intéressante. Mais voilà, il faut savoir que si Louis vous agace, c'est normal. Jacob Anderson est donc Louis, et Sam Reed est Lestat. C'est les deux acteurs qui le jouent, et moi je peux le dire, ils surpassent, mais je le dis très sincèrement, Brad Pitt et Tom Cruise, qui avaient endossé les rôles dans le film issu du roman. Ils sont d'une alchimie folle, parce qu'il y a quand même au départ une vraie alchimie entre eux. Ils jouent de leur corps et de leur regard comme peu savent le faire. Ils respirent la sensualité, la sexualité, le désir. Il y a des scènes dans cette série, mais il n'y a pas besoin de corps nu hein, pour retrouver ces choses-là. Ou des simples regards, des peaux qui s'effleurent, des mains qui se posent. Voilà, c'est juste fou. Leur performance, elle est dingue. Et d'ailleurs, tous les autres acteurs et actrices sont très très bons. En particulier, Eric Bogosian. Alors, Eric Bogosian, vous devez connaître, parce qu'il a fait beaucoup de films et de séries, qui joue le journaliste et qui joue extrêmement bien ce journaliste un peu vieillissant et qui écoute ce vampire en se disant « Ouais, ok ». Voilà, donc, ouais. Bailey Bass, qui joue l'ado vampire Claudia. Voilà, je vous en dis pas beaucoup plus, sinon je vais vous spoiler à mort le truc. Mais elle est.
Ne divulgage pas.
Voilà, mais elle est vraiment géniale. Donc la réalisation, elle est super léchée, avec une photographie de dingue, mais vraiment. J'ai rarement vu, et je le dis, hein, je suis un grand fan de série, j'ai rarement vu une série aussi bien réalisée avec une photo aussi belle. On sent qu'il y a des moyens qui ont été mis et du temps qui a été pris. C'est-à-dire, ça n'a pas été tourné à la va-vite. D'ailleurs, les acteurs le disent, il y a des scènes qu'ils ont refait 15 fois pour arriver au résultat vraiment qu'ils attendaient.
Ouais, pour une série, quoi.
Pour une série. Et c'est rare que dans les séries, on prenne le temps de refaire 15 fois une scène. Mais sauf qu'il y a des scènes où vraiment tout est millimétré. Il y a pas mal de scènes, il y a plusieurs scènes en plan séquence. Vous savez, ça dure 3-4 minutes, voilà. Et là, ça nécessite, en fait, d'être extrêmement précis. Et du coup, voilà. Et la photographie est géniale. La musique, alors, vous avez vu un tout petit extrait, là, avant. Je vais vous en mettre un plus long après. Elle est entièrement jouée par un orchestre symphonique.
C'est beau.
Ouais. Et ça apporte une dimension folle et classe, mais qui colle, en fait, à cet univers gothique. Donc, elle a été confiée par Daniel Hart, hein, qui n'en est pas à son coup d'essai, en tant que compositeur. Mais franchement, la musique, elle est absolument génial. Je sais pas comment dire ça, mais elle vous emporte, quoi. Chaque épisode est extrêmement bien équilibré, superbement écrit, et c'est joué sur nos attentes et avec nos nerfs. Et même quand, comme moi, vous avez lu le roman 8 fois. Je vous jure, je suis un fan du roman, et la série m'emporte, alors que je sais ce qui va se passer. Mais la façon dont c'est fait, voilà, j'attends.
Non, mais en même temps, on a été des millions à aller voir un bateau qu'on savait qu'il allait couler.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est comme Titanic, on connaît la fin, mais là, en fait, je connais le roman, et pourtant, je suis surpris même de la façon dont ils le transcrivent. Et en fait, on est saisi vraiment par moment, et voilà. Les dialogues sont d'ailleurs très, très bons. Et d'ailleurs, ils ont reçu, je crois, un prix, mais je sais plus lequel, pour les dialogues, ce qui est assez rare, parce que généralement, c'est un prix qui est remis au film, et là, qui a été remis à une série, parce que vraiment, mais les dialogues sont si ciselé. Et je vous conseille d'ailleurs vivement de la regarder en VO, mais vraiment, parce que ça vous permettra de profiter du cajun, du français et de l'anglais qui se croisent, parce qu'on est en Louisiane. Et donc, comme on est en Louisiane, il y a des gens qui parlent cajun, des gens qui parlent français à l'époque, parce qu'on est au début du 20e siècle, et des gens qui parlent anglais, et tout se mélange. Et même les gens qui parlent anglais ont parfois un accent cajun. Donc c'est intéressant de voir aussi, voilà. Et il y a aussi, et c'est volontaire, ils ont repris, et aux États-Unis, ils ont reçu le prix de l'Institut des Mémoires Noires, qui leur a remis un prix parce qu'ils ont dépoussiéré le langage des des anciens esclaves, et notamment l'argot des anciens esclaves dans la série, volontairement, et ils ont pris un linguiste pour ça. Donc vous voyez, c'est pas une série qui...
Ouais, c'est hyper bossé.
Ouais, ouais, elle est extrêmement travaillée, donc il y a vraiment des... Voilà, il y a des... Et même, il y a les mêmes sous-titrés à certains moments, même en anglais, parce qu'il y a des mots de slang, comme on dit, d'argot, et donc voilà. Donc vraiment, je vous conseille vraiment de la regarder en VO. Et je ne peux donc que vous conseiller de vous regarder cette série, car elle rend hommage à l'univers d'Anne Rice, à sa plume et à l'esprit de ses livres, au travers des vampires. Et vous savez, à travers des vampires, elle cherchait surtout à nous interroger sur nos vies, et ce que nous en faisons. Et finalement, est-ce qu'on en fait vraiment ce qu'on a envie de faire dans nos vies? Et puis c'est quoi la liberté? Voilà, c'est toutes les questions que pose Anne Rice. Alors, je vous le dis, hein, si je vous ai conseillé Doctor Who de le regarder en famille, vous aurez compris qu'Entretien avec un vampire, c'est pas conseillé à au moins de 16 ans, hein, on va dire ça clairement. Enfin, ouais, 14-16 ans... Mais la série est assez violente quand même.
Ah, ok, pour ça. Okay.
Elle est violente, elle est sexuelle aussi. Okay. Faut quand même pas non plus le nier. Donc voilà, c'est quand même. Enfin, sauf si vous voulez avoir des questions, mais elle est quand même très sexuée et elle est extrêmement violente, mais volontairement, parce que moi j'ai d'ailleurs été très surpris, parce qu'il y avait beaucoup de violence dans le roman d'Anne Rice. Je veux dire, les vampires ne tuent pas gentiment. Ce ne sont pas des gens qui vous prennent le cou en disant je vais te tuer et tu meurs tranquille. Non, c'est des gens qui vous chassent. Ouais. Donc ce sont des chasseurs. Et donc ils agissent comme des chasseurs. Ils agissent comme un lion sur une proie. Ouais. Donc voilà, il y a une vraie violence qui est même pas esthétisée d'ailleurs, qui est là et qui est très extrêmement bien rendue, avec qui justement nous renforce dans ce que sont ces fameux vampires dont entend parler ce journaliste et ce que ça veut dire d'être un vampire. Voilà. Donc okay. C'est plutôt intéressant. Donc la série, elle est disponible sur internet si vous cherchez un peu. Sinon, si vous avez les moyens, elle est sur Paramount+. Voilà. Mais nous, on vous incite pas du tout à faire autrement que d'aller voir là où c'est autorisé. Mais en tout cas, il faut vraiment aller voir. Il faut vraiment voir Entretien avec un vampire. C'est vraiment une série de qualité. Et je le dis très sincèrement, il y a la saison 2 et la saison 3 qui viennent d'être confirmées. Et j'espère qu'ils garderont le niveau de qualité qu'ils ont mis là. Je sais déjà que la musique va être de nouveau confiée. Et comme il le dit, en fait, Daniel Hart, il va réécrire un concerto. Parce qu'en fait, il estime que pour cette saison, il a fait un concerto. Et il va réécrire un concerto pour la saison 2. Parce que vraiment, en fait, ça se tient. C'est un peu comme un opéra. Je peux vous expliquer ça. Donc voilà. Et on va écouter d'ailleurs un extrait de la bande originale du film, de la série. Pardon, maintenant, et donc c'est de Daniel Hart. Thank you. Vous êtes de retour dans la causerie avec donc un extrait de la bande originale de la série.
Bel extrait.
Entretien avec un vampire. Et donc c'est Daniel Hart hein, qui a écrit cette partition, parce que là on peut vraiment parler de partition. Et c'est donc joué par un orchestre symphonique. Et c'est juste fabuleux. Donc c'est la musique de la série. Et imaginez que la série est au niveau de la musique. Voilà, donc
eh ben,
je peux pas dire mieux.
Voilà. Alors on va bientôt se quitter. Fab, ouais. T'avais une brève.
Oui, j'ai une brève. C'est un peu urgent parce qu'elle vient d'être publiée. Elle a été publiée aujourd'hui. Hein, donc voilà. C'est un appel à soutien et communiqué des occupants du quai Arloin. Alors si vous le savez pas, depuis 3 jours, le 40 quai Arloin à Lyon est occupé par le collectif Solidarité entre femmes à la rue. Et donc il vous propose de venir les soutenir demain à partir de 6h du matin. Oui. C'est tôt, oui. Mais c'est parce qu'en fait, elles risquent d'être expulsées. Je vous rappelle qu'elles sont 80 femmes et enfants à occuper le 40 quai Arloin. Je vous rappelle aussi que ce bâtiment, il a été vendu par la métropole du Grand Lyon Habitat, par la métropole à Grand Lyon Habitat, premier bailleur social et public de Lyon, dont le conseil d'administration est composé d'élus municipaux et métropolitains, et c'est eux qui demandent l'expulsion. Donc on va être clair, hein, qu'on arrête un peu de se mentir. Et comme moi, j'aime bien faire du name-shaming, parce que des fois, ça sert un peu. Donc François Thévenot, hein, de Europe Écologie Les Verts, est conseiller métropolitain et est à la tête de Lyon Habitat. Renaud Père de Europe Écologie Les Verts est aussi vice-président de la métropole et délégué au logement. Raphaël Michaud, adjoint à l'habitat à la mairie du Lyon 1er d'hiver gauche. Yasmine Boiga, maire du 1er arrondissement. Donc voilà, donc juste quand même ces gens-là qui d'un côté vous appellent à faire front contre le Rassemblement National et à faire front populaire, ce serait peut-être temps qu'ils arrêtent, commence à se rappeler ce que veut dire populaire dans front.
Bah, qui se voilà.
Ouais, avec ce qu'ils prônent. Donc franchement, je suis vraiment, enfin, je suis en colère parce que je trouve juste hallucinant qu'on puisse aller expulser 80 femmes et enfants. Donc elles ont besoin d'aide, elles ont besoin de, si vous pouvez que vous soyez là. Vous pouvez les suivre. Je suis un peu long, désolé, mais c'est important.
Ouais, mais
sur Twitter, sur un collectif avec un SFR. Voilà, il y aura tout un, ouais, c'est un grand S. Voilà, il y aura Solidarité Femmes à la rue 69, ça c'est sur Instagram, tout attaché, Solidarité Femmes à la rue 69. Et si vous pouvez leur écrire aussi à Solidarité Femmes rue, alors Solidarité sans S, Femmes avec un S rue, @proton.me. Donc voilà, si vous avez besoin de leur écrire. Honnêtement, on est en plein mois de juillet, c'est juste honteux. Il n'y a pas d'autre mot que d'imaginer qu'on va pouvoir foutre dehors 80 femmes et enfants. Alors que le bâtiment, je vous le rappelle, elles ont laissé rentrer la police et les pompiers qui ont toutes les deux dit qu'il n'y avait aucun risque sanitaire ou d'urgence. Donc voilà, il arrive en fait un moment où il faudrait qu'un petit peu les élus de gauche se comportent comme des gens de gauche.
Ouais.
Surtout quand ils nous appellent à faire front.
C'est ça.
Hein, voilà.
Et puis il faut rappeler que ces femmes qui squattent un nouveau lieu, en fait, elles ont été déjà expulsées,
ouais,
je crois, d'un gymnase aussi, parce que c'est plus important que les enfants fassent du sport plutôt que d'avoir un toit même précaire avec leur mère. Ouais, il y a des trucs comme ça, on comprend pas quand les gauches ont de la politique. C'est peut-être pour ça qu'on est sans Dieu ni maître ici, parce qu'on pense que aucun ne nous sauvera. Il n'y a que nous qui nous sauverons. Collectivement.
Voilà.
On va quand même vous donner quelques petites infos pour nous contacter, évidemment, parce que On n'est pas là pendant quelques semaines, mais oui. Ça ne vous empêche pas de nous écouter, de nous réécouter, de nous écrire, de nous faire un petit coucou, bisous, ou même juste de nous dire que vous ne nous aimez pas, vous avez le droit. Donc, c'est un mail à lacauseriecanu@gmail.com, lacauseriecanu@gmail.com. Vous retrouvez évidemment toutes les émissions sur le blog de l'émission, c'est à blogs.radiocanu.org/lacauserie. Sinon, dans votre petit moteur de recherche, vous tapez La Causerie Radio Canu, vous devriez rapidement tomber sur nous. Et évidemment, vous retrouvez tous les podcasts sur tous les sites de baladodiffusion, d'écoute de musique, enfin tout ça, La Causerie Radio Canu, vous devriez là aussi tomber
sur nous. Ou La Causerie Canu.
La Causerie Canu, c'est vrai.
Mais vous pouvez mettre radio, hein, si ça marche.
Ouais, aussi. Ben voilà, est-ce que j'ai tout dit? Oui.
On est aussi sur Facebook.
Oui,
Facebook.
C'est vrai, on est aussi sur Facebook.
Juste du partage pour les vieilles personnes qui sont encore sur Facebook.
Comme nous.
C'est pour ça que je le dis d'ailleurs. Oui. Merci d'ailleurs à ceux qui nous partagent ailleurs, toujours, hein, parce qu'on s'est retrouvés sur des réseaux qu'on n'y est même pas. Alors du coup, ça nous fait bizarre, mais c'est gentil. Oui. Ça fait plaisir. Moi aussi, juste quand même, je voulais dire, c'est l'été, mais Radio Canu a encore des émissions qui sont présentes et aussi des émissions qui ne sont pas là. Nous, on ne sera pas là un temps. Par contre, il y a aussi les bandes continues de Radio Canu, donc n'hésitez pas à écouter Radio Canu, parce que si vous voulez de la musique variée, qui passe, qui font des grands écarts, mais vraiment à sinon, bah, écoutez les bandes continues de Radio Canu. Et puis, bah, sinon, bah, je voulais juste vous dire, dans la période actuelle, on sait que c'est un peu la merde un peu partout, hein, globalement, on va pas se mentir. Et pas que en France avec les élections, un peu partout. Mais il y a quand même besoin de solidarité. Et une solidarité que vous pouvez avoir, et moi je vous le dis, c'est soutenir les radios associatives partout où vous allez, quand vous partez en vacances, si vous avez la chance de bouger, mais même à l'étranger, écoutez les radios associatives, aidez-les quand elles font des appels aux dons. Parce qu'en fait, bah, que vous le vouliez ou non, en fait, c'est le petit espace de liberté que nous sommes, nous autres radios associatives. Ben on est extrêmement menacés. On sait que dans le programme de plein de partis politiques, et pas qu'à l'extrême droite, il y a une envie très forte de nous voir disparaître, parce que ces contre-pouvoirs, ces zones où on peut dire un peu ce qu'on pense réellement, ces zones un petit peu libres, ou même totalement libres d'ailleurs, ou ces zones rebelles, ben ça les dérange. Voilà. Et n'oubliez pas, par exemple, que je voulais juste rendre hommage aujourd'hui aux copains de Radio Balise qui ont été menacés de mort par des fachos qui leur ont dit qu'il y avait trop de woke, trop d'homosexuels, trop de tout ça, et qui viendraient donc leur faire payer ça. Voilà, j'avais juste une pensée aussi pour eux. C'est une petite radio associative de Lorient et qui font juste vivre en fait une voix différente. Et on est plein de radios associatives à recevoir comme ça des menaces. C'est pas le cas de Radio Canu pour l'instant, mais très honnêtement, ça pourrait nous arriver. Mais en tout cas, voilà, sachez que si vous voulez faire un peu vivre tout ça, faut aussi nous écouter, faut nous faire connaître, faut nous partager. Parce que, sinon on peut disparaître aussi vite qu'on est apparu.
Je vais être taquin. Et on peut rappeler aux Guillaume Meurice et toutes ces compagnies qu'en fait on peut faire de l'humour sur des radios libres, mais par contre c'est sans salaire. Bon.
Ah oui, c'est vrai, voilà. C'est pas pareil.
Mais il y a des antennes libres qui existent encore qui ne sont pas alliées du capital ou de l'État, mais par contre on ne fait pas beaucoup de pognon dessus, voire on s'en fait pas.
Ouais, puis des fois on peut aussi éviter d'aller sur RTL pour taper sur. parce qu'on rappellera pas qui appartient à RTL. Hein,
oui, mais tu sais, il faut continuer d'avoir un public et un salaire.
Voilà.
Donc nous, on vous donne rendez-vous parce que c'est les petites vacances. D'ailleurs, attends, Clara, pour ce retour, pour une émission, ça va, t'es contente ?
Ouais, ça va.
Ok. Mais contente de repartir. Quoi.
Ah bah oui.
Enfin, surtout de plus nous voir. Quoi.
C'est ça.
C'est que tu vas pas nous voir pendant 2 semaines.
Mais vous allez me manquer.
Ah, merci.
Merci. C'était pour
ironique,
cette
spontanée.
Ah bah voilà.
Vas-y. Bon, bref. En tout cas, nous, amis auditeurs, auditrices, on se quitte pour au moins 15 jours. On reviendrait soit le 18 août, peut-être.
Soit le 25.
Soit le 25. Ouais. Hein, comprenez.
On va essayer le 18.
S'il y a la déprime qui se pointe le 18, je ne serai pas là.
Il aime pas reprendre le travail.
Le travail est une plaie, où que ce soit. Et ben voilà, on va se quitter en musique.
Non, mais ici, tu travailles pas, tu le sais.
Ah non, mais oui.
quand tu dis ça, j'ai l'impression que c'est un boulot de fait.
Non, non, du tout. Non, mais des fois, ça me déprime de ne pas pouvoir qu'on puisse. Oh là.
Je vais
prendre des cours de français cet été.
Enfin, en tout cas, des locutions.
Ouais, mais le français aussi, je pense que c'est utile. Merde, je sais plus ce que je voulais dire.
Tu voulais dire, tu n'aimes pas l'idée qu'il faille reprendre.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait...
Pas l'émission,
ah non, pas l'émission, le travail, le salariat, l'exploitation par un patron, par des patronnes, c'est toujours la même rengaine. Hein, enfin bref, on va se quitter donc en musique. Ouais, nous, on vous donne rendez-vous soit le 18,
attends,
soit le 25.
Attends, il faut que Clara l'explique ce que c'est.
Mais bien sûr, mais attends, je...
Oh. Non, mais enfin, il monopolise la parole, quoi. On devait finir à l'heure et on n'est pas à l'heure.
Et tu sais quand même que Clara parle beaucoup dans l'émission, elle en a besoin ce soir.
Non, pas plus que ça.
Juste pour régler mon compte. Allez, c'est ça. Je te laisse le crachoir.
Allez, vas-y.
Oui, donc on se quitte avec un titre de Zao de Sagazan que vous avez eu l'habitude d'écouter à la causerie et que vous réécouterez certainement. Parce que nous, on ne fait pas partie du groupe Bolloré et on ne la censure pas. Et donc ce soir, on va se quitter avec le titre Mon Inconnu.
Eh bien, très bien. On vous donne rendez-vous dans 15 jours, 3 semaines peut-être. On vous souhaite bon courage pour les semaines à venir. Des bisous, bon courage et de la solidarité. Attends, et amusez-vous.
Attends, comme tu ne sais pas compter, on vous donne rendez-vous dans 3 semaines ou 4 semaines.
Et je rajoute donc élocution, français et maths.
Et maths.
Je reviendrai en septembre en plein
chargé. Hein.
Voilà. Allez, donc on se retrouve le 18 ou le 25 août. Portez-vous bien, des bisous.
Ciao.
Et courage à ceux et celles qui n'ont pas de vacances.
Oui.
Ciao.
Ciao.
Je crois que je tombe amoureuse d'un inconnu. Est-ce possible, mon père? Est-ce que vous en avez déjà vu des gens qui tombent amoureux d'autres inconnus? Ah. Possible dans la cour des grands, mais ce gars-là ne m'est pas si inconnu que ça, non, non. De mon côté, j'en ai rêvé des millions de fois. Alors certes, je le connais seulement à ma façon, mais façonner des garçons, c'est mon truc à moi. Ah. Amoureuse d'un inconnu, impossible, mon père, de l'oublier. Depuis que je l'ai vu, j'en ai honte, en manque d'amour ou détraqué. Ah. Putain, je suis détraqué, mais ce gars-là ne m'est pas si inconnu que ça, non, non. De mon côté, j'en ai rêvé seulement 8 fois. Alors certes, je le connais seulement à ma façon, mais façonner des garçons, c'est mon truc à moi. Ah. Mon truc à moi. Ah. Mon truc à moi. Je suis amoureuse de l'inconnu, l'imagination qu'on croise au coin de la rue, de l'histoire que je m'invente. Je le contrôle en continu.
Casse la grève, que le spectre